Salut, salut, bienvenue dans Step Back, le podcast de la rédaction basket de l'équipe. On s'est quitté il n'y a pas si longtemps, vendredi dernier, on vous parlait des Chicago Bulls. Là, on se retrouve dès mercredi pour l'enregistrement, car ce jeudi, l'équipe de France féminine dispute son premier match depuis sa médaille de bronze au JO Tokyo. Alors, c'est un match de qualification pour l'Euro 2023, quelque chose de lointain. Elles vont affronter l'Ukraine, là, elles jouent à Kiev, elles vont affronter la Lituanie. Mais on ne va pas forcément parler de l'enjeu sportif immédiat, on va vraiment parler du contexte qui entoure les joueuses, c'est-à-dire le staff avec le nouveau sélectionneur, Jean-Aimé Toupane. Dire que ça nomination a été une surprise est un euphémisme. L'homme n'est pas nouveau dans le basket français, loin de là, il l'est dans le basket féminin. Pour analyser, essayer de comprendre ce que ça peut changer autour des Bleus, dans le jeu des Bleus, j'ai avec moi aujourd'hui Christophe Denis. Bonjour Christophe.
Salut Xav.
Arnaud Lecomte. Salut Arnaud.
Bonjour.
Et Amaury Perdriau. Salut Amaury.
Bonjour tout le monde.
Allez, début du game. Christophe, première question, le président de la fédération, Jean-Pierre Suta, avait annoncé rapidement qu'il souhaitait, après Valérie Garnier, un profil différent, différent entre guillemets, je le cite. Qu'est-ce que tu avais compris, à la fois avant la nomination et après à la lecture du nom du nouveau sélectionneur, ce qu'on voulait de différent ?
Il aurait fallu être dans la tête de Jean-Pierre Suta et des personnes qui l'entourent pour le savoir avec grande certitude. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a quand même des choses qui n'allaient pas. Sinon, on n'aurait pas changé. Et dans cette différence, moi, j'ai cru deviner, effectivement, que la Fédération française de basket, et en l'occurrence Jean-Pierre Suta, voulait peut-être un peu plus de... Comment dire, de charisme, peut-être un peu plus de caractère, d'avoir un sélectionneur avec un peu plus peut-être de d'emprise sur les joueurs, de poigne. Je ne sais pas si j'arrive à être clair.
Sur les joueuses, pardon.
Et c'est peut-être ça le changement. Je ne suis pas certain que Jean-Pierre Suta puisse remettre en cause les qualités de tacticienne ou d'entraîneur de Valérie Garnier. Mais être sélectionneur, c'est être capable aussi de répondre présent dans les grand rendez-vous. On n'est pas entraîneur de club, là. Donc, c'est peut-être ça ce qu'il voulait dire.
Évidemment, tu parles des finales souvent perdues ces dernières années, les finales de championnat d'Europe, 5 à la suite, donc 4 pour Valérie Garnier. L'heureux élu Amaury, c'est donc Jean-Aimé Toupane. Je le disais en introduction, ça a surpris beaucoup de monde. On a travaillé un petit peu à essayer en amont de savoir qui pouvait succéder à Valérie Garnier, à la fois de ce qu'on entendait et tout simplement de ce qu'on pouvait imaginer. Le nom de Jean-Aimé Toupane ne ressortait pas. On est d'accord que même discrètement, même à la marge, on l'avait pas vraiment entendu ce nom, Amaury.
C'était assez difficile de l'imaginer, comme tu disais, parce qu'on a toujours tendance à se projeter vers des entraîneurs en fonction, en club, dans le basket féminin. Et je pense que c'était ce biais-là qui nous a mis sur la mauvaise piste, c'était d'imaginer que la fédération puisse nommer un entraîneur qui n'était pas issu du basket féminin. Après, voilà, Jean-Aimé a son CV dans le basket de jeunes, notamment au centre fédéral, et je pense que ce que la fédération a su imposer dans sa feuille de route, c'est le staff qui entoure Jean-Aimé Toupane et qui est un peu cette caution au basket féminin. Je pense à Cathy Melun, à David Gauthier, qui est actuel entraîneur de l'Union d'Angers en Ligue féminine, et aussi, on l'oublie souvent, Céline Dumère, qui est la manager générale de cette équipe, qui est un peu là pour chapeauter tout ça, tout en formalisant avec le rôle. Donc voilà, Jean-Aimé Toupane est un peu l'ambassadeur d'une nouvelle ligne de conduite qui se veut un peu pluridisciplinaire avec beaucoup d'intervenants autour de lui.
Le staff, on va justement en reparler parce qu'il a peut-être encore plus d'importance que d'ordinaire. Je vais par contre me tourner directement vers Arnaud pour parler justement de Jean-Aimé Toupane en lui-même avant de parler du staff. Jean-Aimé, ça fait peut-être plus de 30 ans que tu dois le côtoyer, le voir dans le basket. Qui est-il ?
Qui est-il donc ? Eh bien, son nom aujourd'hui évoque peut-être davantage son fils, Axel, qui est un ailier international qui a disputé la Coupe du Monde il y a 2 ans avec l'équipe de France, et a ramené une médaille de bronze. Qui est champion NBA cette année aussi, même s'il n'a pas énormément joué, mais enfin, il a fini la saison au Milwaukee Bucks, donc il a la bague. Et donc, c'est effectivement Jean Aimé, lui, est un entraîneur qui a une carrière de joueur déjà. Il est arrivé en France en 1980, ça remonte maintenant à une autre époque. Il avait déjà disputé un championnat du monde avec le Sénégal, figurez-vous, avant d'arriver en France. Et puis il arrive à 22 ans et il arrive par Mirande dans le Gers, un club un petit peu connu dans le basket féminin puisqu'il est celui d'origine de Alain Jardel, l'ancien entraîneur de l'équipe de France, et Valérie Garnier surtout. Et effectivement, il y a eu une forme d'apprentissage pour beaucoup d'internationales à Mirande, qui était un club important du basket français des années 80-90. Donc voilà, Jean Aimé arrive par les petits niveaux départementaux et régionaux, et puis petit à petit se fait sa place. Il devient un vrai bon joueur de première division en France. C'était un excellent défenseur notamment. Et ensuite, il démarre une carrière de coach qui l'a mené jusqu'à il y a encore quelques années. Il y a peu de temps, hein, jusqu'à il y a 6-7 ans, je crois, il était encore entraîneur en Pro B, ou en Pro A d'ailleurs, même avec Antibes, hier Toulon. Il est passé par Clermont, qu'il a fait monter de National 1 à Première Division au début des années 2000. Il est passé par il avait commencé à Toulouse. Il a fait un petit passage assez éphémère à Pau, où ça ne s'est pas très bien passé. Pau Orthez, quand même, ce qui quand même vous pose un coach quand on est pris à Pau. Donc bref, il a une carrière assez riche, puis surtout il a une carrière fédérale qui avait commencé dès les années 2000 également avec le poste d'assistant auprès de Claude Bergeau entre 2004 et 2007 de mémoire.
La médaille de bronze fameux, en Serbie avec Tony Parker, Antoine Rigaudeau.
Fameux Euro 2007, effectivement, 2005. En 2005 en Serbie avec la victoire notamment à Novi Sad, victoire un peu fondatrice pour cette génération. Bref, on a connu c'est un personnage qui a connu beaucoup d'expérience. Alors effectivement, il connaît pas le basket féminin de l'intérieur, on va dire, même si au Centre Fédéral, puisqu'il est au Centre Fédéral maintenant depuis 7 ans à temps complet, il a évidemment côtoyé tous les entraîneurs jeunes du Centre Fédéral, du pôle France. Et puis, il a évidemment côtoyé un peu les jeunes générations, les jeunes joueuses. Donc, il connaît ce milieu-là. Après, il n'a jamais travaillé au niveau international chez les femmes. Mais je pense effectivement, comme l'a dit Amaury tout à l'heure, que le staff est là justement pour... et puis les joueuses, hein, tout simplement. Une Sandrine Gruda, c'est une experte, par exemple, au niveau international, comme une Andy Miem et quelques autres. Donc, je pense pas que ce soit un problème majeur pour lui. Son staff sera là pour l'aiguiller lorsqu'il sera un peu court sur la connaissance, notamment des joueuses adverses.
On a vu les filles à l'INSEP mardi et Jean Aimé l'a bien avoué. Il a dit qu'il fallait s'y faire, à ce nouveau basket en termes de genre. Mais il essayait de botter en touche en disant que le basketball, au sens large du terme, n'est pas genre. Il parle le même sport. Donc il a vraiment toute confiance dans le fait que ce qu'il va essayer de distiller comme enseignement, comme information aux filles, ce seront les mêmes choses que ce qu'il donnait à ses garçons et ça aura à peu près les mêmes effets.
Christophe, sur la nomination de Jean Aimé, on a entendu plein de choses pour la justifier d'une certaine manière. Il y a eu l'officiel, il y avait l'officieux. On parlait peut-être de raisons financières. La Fédé, on en sort d'une période Covid qui n'est pas simple. Aller chercher un entraîneur, par exemple étranger, cher, c'est pas forcément facile. Peut-être parler de possibles complications entre la Fédé et la Ligue. On sait que l'année dernière, la finale de la Coupe de France avait été annulée. Ça avait été mal vécu par la Fédé. Et je ne sais pas si ça a raison ou a tort, mais ça avait été peut-être mal vécu. Bref, plein de choses qui auraient pu être peut-être périphériques, mais qui, mises ensemble, pouvaient expliquer la nomination de Toupane. Qu'est-ce qui te paraît crédible là-dedans ? Est-ce qu'on est purement dans un choix sportif simple ?
Les franco-français aussi. Moi, je suis ravi que la fédération ait pris cette position. Alors évidemment, il y a toujours mieux hein, ailleurs. Il faut d'abord regarder ce qu'on a au sein de sa propre maison. Et moi, je suis ravi qu'effectivement, sur ce poste-là de sélectionneur de l'équipe de France féminine, on puisse finalement y mettre quelqu'un qui est issu de la formation française, enfin un coach français, et qui plus est, de la fédération française de basket et non pas de la ligue féminine de basket. Alors, il y a ce petit contentieux avec la LFB sur le match de Coupe de France qui a été annulé au dernier moment. Alors, je ne sais pas si c'est une manière de régler ses comptes, mais en tout cas, voilà, c'est aussi et donc afficher son identité.
Et donc, de ne pas prendre un coach
probablement,
opérant en Ligue féminine.
Probablement. Quand on m'avait posé la question avant la nomination de Jean-Aimé, il y a des noms. On avait parlé de Valérie Demory, Pierre-Vincent, qui aurait pu peut-être revenir. Je ne sais pas s'il a eu le moindre contact avec la Fédé. Mais voilà, moi, je suis content qu'on puisse effectivement promouvoir ou donner la chance à quelqu'un qui est issu du Sérail. Voilà, moi, je trouve que c'est une bonne chose déjà au départ. Après, maintenant, Jean-Aimé, évidemment, aura à faire ses preuves. Et encore une fois, je le répète, il aura à faire ses preuves non pas sur un camp d'entraînement à l'INSEP, il aura à faire ses preuves dans les grands rendez-vous. Faut pas oublier quand même, et ça, je voudrais en parler un tout petit peu, c'est que Valérie Garnier, malgré toutes les choses qu'on peut lui reprocher, elle sait procuré avec son groupe, évidemment, c'est-à-dire son coaching staff, enfin toutes les personnes autour de l'équipe de France et les filles, elle s'est quand même donné l'opportunité de jouer beaucoup de grands rendez-vous. Elle a été très souvent en finale, parce que pour pouvoir gagner une finale, il faut la jouer. Déjà.
Alors,
perdez en demi-finale ou en quart de finale...
Mais alors, continuons là-dessus, parce que... La culture de la gagne, c'est une expression qu'a utilisée Jean-Pierre Suta pour justifier, parmi les justifications à la nomination de Jean-Aimé Toupane. Arnaud Valadon, notre confrère de RMC, avait interrogé Jean-Aimé sur ce sujet-là. Les réponses qu'il donnait, il parlait de volonté de donner le maximum, d'envie de progresser, de nécessité d'être collectif. J'ai envie de dire, bon, des choses un peu de base pour le sport de haut niveau. Qu'est-ce qu'il faut voir qu'est-ce qu'il peut apporter de différent dans la culture de la gagne? Qu'est-ce que ça peut être?
Le mental. La culture de la gagne. Alors, on parle de gagner quelque chose. On ne gagne rien quand on échoue en demi-finale.
Mais pour gagner une demi-finale d'Euro, il faut du mental.
Mais bien sûr. Ça se construit. Sauf que ce qu'on le reproche à l'ancienne sélectionneur, Valérie Garnier, c'est tout simplement d'avoir manqué des grands rendez-vous et notamment perdu des finales. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, elle se retrouve à la porte. On aurait pu la féliciter d'avoir réussi finalement à amener cette équipe nationale au plus haut niveau sur chaque grand rendez-vous. Parce que c'est ce qu'elle a réussi à faire quand même. Voilà. Donc, la culture de la gagne, c'est gagner des finales et gagner des titres. C'est tout. Il faut remplir la vitrine. L'approche de ces grands rendez-vous-là, pour moi, est, parce qu'on parle de performance, est sur le plan mental. Donc, le mental, il se définit au travers de différents facteurs. Je ne vais pas vous faire un grand cours théorique, d'accord ? La panique, la routine, le défi, la maîtrise. Il m'en manque un. Bref. Donc, il va falloir de toute façon que Jean-Aimé Toupane et les personnes qui l'entourent, on parlait de David Gauthier, mais pas que, Cathy Melin, l'approche de ces grands rendez-vous-là. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous mettez en place? Quelle attitude vous avez vis-à-vis de vos joueurs? On m'a raconté une anecdote. Tiens, la veille de la finale du championnat d'Europe, Marina Maljkovic a fait 1h30 d'entraînement, tout terrain. Et c'était peut-être l'entraînement le plus difficile de la semaine. Alors, c'est des choses qu'on entend très régulièrement quand on parle de grands coachs européens et notamment chez les garçons. C'est que même un entraînement le jour d'une finale peut être difficile. C'est une approche mentale des grands rendez-vous.
Tu as parlé de Cathy Melin. Amaury, on a eu l'impression que ce qui comptait plus encore que Toupane, c'était Melin. C'est-à-dire que il faut se souvenir de la façon dont ça a été annoncé d'ailleurs. On nous a annoncé en début qui était le sélectionneur et son adjointe, et ensuite, quelques semaines plus tard, quel était le staff. Donc on nous disait bien que ce n'était pas un sélectionneur, mais un binôme qu'on mettait à la tête.
Un tandem.
À se demander... Amaury, si Cathy Melin n'aurait pas pu être directement sélectionneuse.
Je pense que c'est un mix des deux. Je pense qu'il y avait la volonté de la part de la fédération d'installer une figure forte. Alors, j'ai pas envie de dire paternaliste, c'est pas le mot, mais avec plus d'expérience, plus âgé. Il faut le dire, voilà, qui a vu des années de basket avec Cathy, qui a une carrière d'entraîneur en club un peu plus courte, même très courte. Hein, c'est 2-3 ans à Basketland. C'est peut-être pas suffisant. Par contre, voilà, d'évoluer dans le sillage de Jean-Aimé Toupane, ça va lui permettre à elle aussi de se faire la main de ce que c'est que d'être entraîneur ou adjoint dans un groupe France. On peut tout à fait imaginer que si ça devait très mal se passer pour Jean-Aimé Toupane, voilà, elle ferait naturellement partie des gens qui pourraient donner un coup de main par ailleurs dans le futur. Je veux pas me projeter moyen long terme, mais j'imagine que la fédération a eu ça à l'esprit.
Cathy Melin, Arnaud, Cathy Melin et Jean-Aimé Toupane se connaissent bien. Ils travaillaient déjà ensemble.
Tout à fait, je crois qu'ils ont travaillé ensemble chez les U20, oui. Masculins.
Oui, où Jean-Aimé Toupane, disons-le, a gagné 5 médailles, ce qui est le record pour un sélectionneur français chez les jeunes.
Ouais, il a même gagné une finale d'Euroleague Junior avec le pôle fédéral, ce qui n'est pas rien. C'est la génération Malédon, il y a 4 ans. Donc c'est quelqu'un qui a malgré tout une habitude de la haute compétition, même chez les plus jeunes, davantage ces dernières années. Donc voilà, donc il a l'habitude de ces compétitions-là, il connaît le niveau international, même si c'est pas tout à fait les mêmes catégories. Malgré tout, il a une expérience de tout ça. Je pense que c'est une personnalité aussi qui fonctionne très bien avec Cathy Melin. Ils se connaissent bien, évidemment. Ils ont travaillé ensemble, donc ils sont largement compatibles. Ils ont deux personnalités qui, à mon sens, se complètent assez bien, de ce que j'en connais. Jean-Aimé est quelqu'un d'assez... ses airs un petit peu cool, doux, et peut avoir une autorité forte, tout comme Cathy Melin, d'ailleurs. Donc, je pense qu'ils se complètent pas mal. Voilà, donc je pense que l'idée du tandem, moi, avec le temps, là, on va voir un peu comment ça se passe concrètement cette semaine, mais avec le temps qui passe, passé la surprise de la nomination qu'on n'avait en effet pas vu venir, je trouve que ça a pas mal de cohérence. Je suis pas surpris quelque part après coup aujourd'hui en me disant de toute façon, on n'a pas l'habitude dans le sport français d'une manière générale, mais alors encore plus dans le basket français, d'aller chercher à l'étranger. Déjà, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Ça ne se fait d'autant moins probablement dans les 3 ans à venir, parce que les Jeux Olympiques sont en France. Donc on a envie d'aborder les Jeux Olympiques à Paris avec de la formation des entraîneurs du cursus et du cycle français, on va dire. Donc ça me surprend un peu moins maintenant, surtout que je trouve que de plus en plus que cette idée de changer, il fallait changer beaucoup de choses, notamment le staff, et je crois qu'ils ont très très bien négocié ça pour le moment. Après, on va voir, hein, c'est évidemment la compétition qui va trancher comme toujours. Je trouve que ça a plutôt du sens, à y réfléchir, de faire fonctionner une ancienne joueuse de très haut niveau, dont on sait qu'elle est promise, elle était en tout cas promise tôt ou tard à avoir ces responsabilités-là, et quelqu'un qui est dans le sillon fédéral depuis longtemps, qui connaît la maison, qui connaît aussi, qui est capable d'assumer les choses, je pense, quand il faudra les assumer. Donc voilà, ça me paraît avoir du sens un mois et demi après la nomination de Jean-Aimé Toupane.
Christophe, le staff a, c'est vrai, quasiment totalement changé. Grégory Alain fait un peu la transition, mais Rachid Méziane, Olivier Lafargue sont partis, David Gauthier arrive, le staff médical, l'entourage a beaucoup changé. Il y a une personne qui peut faire la continuité.
Sabine à la préparation physique.
Oui, qui a changé, pour moi, effectivement.
Qui pour moi est une des toutes meilleures au monde, j'ose le dire.
Donc, plutôt une bonne chose. Céline Dumerc, elle, pourra faire la continuité. Elle a connu, évidemment, l'équipe de France en tant que joueuse pendant des nombreuses années, et glorieuses, d'ailleurs. Elle est manager générale. Elle l'était, d'ailleurs, à Tokyo, même si elle ne pouvait pas physiquement être présente pour des questions d'accréditation, puisqu'elle commentait aussi. Ça a peut-être un petit peu parasité sa façon de fonctionner. Malgré tout, on sent que plus qu'un binôme, c'est presque un trinôme. C'est-à-dire que Jean-Aimé la cite dans Boris Dio. On sait par exemple chez les hommes a une importance grande, sans empiéter dans le domaine de Vincent Collet et de son staff. Est-ce que Céline Dumerc, c'est pareil, elle peut prendre de l'importance?
À mon avis, elle en aura encore un peu plus. En tout cas, je suppose que Jean-Aimé Toupane va avoir besoin de s'appuyer sur elle beaucoup, parce que on est dans une période de transition. On le disait tout à l'heure, le staff de l'équipe de France va devoir faire ses preuves, et ça arrive très vite, hein, parce qu'ils ont deux matchs importants à jouer là, et que tout le monde va
les... On en parlera juste après, justement.
Tout le monde va les regarder, et puis va voir un peu s'il y a une différence sur le style de jeu, sur l'identité affichée, est-ce que c'est un peu trop court pour pouvoir le voir tout de suite, mais Céline Dumerc aura de toute façon un rôle essentiel, c'est ce chaînon entre les filles qui quelque part ont aussi accepté la décision qui a été prise, et je me doute que des filles comme Sandrine Gruda par exemple ont été un peu mis dans la confidence avant l'annonce de la décision, donc il va falloir valider tout ça.
Et confidence ou discussion, c'est pas la même chose d'ailleurs.
D'abord confidence et discussion ensuite, mais je ne suis pas d'abord, je pense plus confidence que discussion.
Moi aussi.
Plus dans la confidence, les décisionnaires devaient avoir quelque part aussi l'aval des cadres de l'équipe, l'aval, pas l'autorisation, donc pas discussion dans les confidences, et puis de toute façon il y a une prise de température après les JO de Tokyo, hein, et voilà, de débriefer de ces deux compétitions qui se sont déroulées cet été. Donc Céline Dumerc aura forcément un rôle beaucoup plus important qu'avant, parce qu'on est un peu, alors pas sur des sables mouvants, mais on est en période de transition, et je pense que c'est une figure emblématique du basket féminin et au chevet de l'équipe de France, et que forcément elle va avoir un grand rôle à jouer entre le lien qu'il y a entre les joueurs et effectivement le staff.
Les joueuses. Pas grave. Céline Dumerc, elle aurait été bien utile sur le parquet cette semaine, puisque les trois meneuses qui normalement constituent le socle, c'est-à-dire Olivia Epoupa, Alix Duchet et Marine Fautou, sont absentes. Là, on se retrouve avec Caroline Ario et Marie-Ève Paget qui n'ont aucune cape. Tim Apouille qui peut jouer sur ce poste, et encore, c'est pas son rôle vraiment, c'est plus une 2, et elle n'a que 4 sélections, elle est encore jeune.
Et Marie-Ève Paget aussi, hein, Xavier.
C'est-à-dire ?
À Basketland, elle joue plus sur le poste 2 que sur le poste 1.
Tout simplement. Donc, résultat, on se retrouve avec une main très dépeuplée. Bria Hartley, pour l'instant, elle n'est pas là. Le poste est pris par Gabby Williams. Est-ce qu'on peut être un tout petit peu inquiet pour ce qui va se passer cette semaine à cause de ce problème spécifique à un poste clé, Amaury ?
Je vais répondre à ta question par une autre question. Est-ce que ça a été un problème pendant l'Euro ou pendant les Jeux?
Non, mais là, il n'y a plus de meneuse d'expérience. Il n'y a vraiment plus aucune.
Oui, mais dans les moments chauds, dans les moments importants, même Valérie Garnier ne s'était pas exclusivement reposée sur des meneuses de métier. On sait que Gabby Williams est capable de gérer la montée de la balle. Sarah Michel, mais on sait même que Marine Johannes, qui est la clé de voûte de ce nouveau projet, ça a été dit à l'INSEP, c'est une joueuse qu'il va falloir remettre en confiance, à qui il va falloir donner le ballon. Est-ce que ce ne sera pas l'occasion, justement, avec ses absences, de la responsabiliser, de la remettre dans le 5? Je ne dis pas que ça va porter ses fruits, ou je ne peux pas en mettre ma main au feu, mais Marie-Ève Paget fait un très bon début de saison. Tim Apouille, comme tu l'as dit, est capable de dépanner à ce poste-là. Donc oui, les absences sont vraiment dommageables pour ce nouveau départ, mais de toute façon, comme le disait Christophe, Jean-Aimé Toupane ne va pas pouvoir réinventer le basket de l'équipe de France en aussi peu de temps. Il va devoir s'appuyer sur ce qui a été fait ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc finalement, la recette pour pallier ces manques-là, elle est déjà connue, et il y a plusieurs cordes à son arc pour pouvoir compenser tout ça.
Alors à court terme, effectivement, on le sait maintenant avec les fenêtres, il n'y a jamais de match, par exemple, de préparation au match des fenêtres, il n'y a pas le temps. Par contre, à terme, on a notamment un mondial en septembre prochain en Australie. Là, il y aura le temps de travailler. Est-ce qu'on peut s'attendre à une différence de jeu? Est-ce qu'on peut s'attendre à une différence de hiérarchie? Rappelons que Andy Miyem et Sandrine Gruda ont 33 et 34 ans, ou 34 et 33 ans, que Marine Johannes n'a pas toujours été très heureuse du rôle qu'on lui avait donné. Or, elle est quand même plus ou moins l'avenir de cette sélection. Qu'est-ce qui peut se passer à moyen terme, Arnaud?
Justement, c'était intéressant de voir un peu, malheureusement elle n'est pas là, de revoir Olivia Epoupa qui fait un début de saison assez remarquable avec l'AT Montpellier, qui a beaucoup manqué cet été. On se souvient qu'elle s'était blessée dès les premières minutes du premier match de l'Euro à Strasbourg, qu'elle a manqué les Jeux Olympiques également, et que Amaury disait tout à l'heure, est-ce que ça a été un problème, le manque de meneuse de jeu, d'expérience pendant l'Euro et les JO? Moi je réponds oui. Rappelons-nous que la demi-finale contre le Japon des JO, a été une domination complète de la meneuse de jeu japonaise,
Takada,
qui a été brillantissime, qui a crevé l'écran ce jour-là, et qu'on a eu des difficultés en défense. Et qui mieux qu'Olivia et Poupa aurait peut-être un petit peu freiner cette meneuse japonaise.
Ce que tu sous-entends, c'est qu'Olivia Epoupa pourrait reprendre une importance clé et refaçonner un petit peu la hiérarchie à l'intérieur de l'équipe.
De toute façon, elle était censée prendre la main et être la meneuse titulaire à l'Euro.
Au-delà de la main, il y a le leadership.
L'été dernier. Oui, une forme de leadership qu'elle a
aujourd'hui. Je n'ai pas forcément une idée précise de qui est la leader et qui ne l'est pas, a dit Jean-Aimé Toupane à sa nomination.
Oui, je pense qu'effectivement,
le temps de voir.
Il y a quand même quelques leaders, je ne sais pas comment on dit, d'expérience dans cette équipe, entre Andy Meyem ou Sandrine Gruda, par exemple. Là, l'équipe de France va jouer sans Valériane Ayahi aussi, ce qui n'est pas totalement anodin. Donc il y a effectivement un groupe un peu très jeune, là, pour le coup, même s'il y a quelques joueuses qui ont évidemment déjà beaucoup de compétition derrière elles. Mais malgré tout, je pense qu'à la main, voilà, il était intéressant de voir un peu comment on allait resituer un peu Olivia et Poupa dans l'équipe. C'est une occasion perdue, même si on va avoir deux jeunes joueuses avec Hervio et Paget qui ont tout à montrer là, un
qui
peu sur,
3-3.
Cette, sur cette période.
C'est intéressant,
ça. Comme Minia Touré aussi, qui va connaître sa première sélection, qui est la grande spécialiste du 3-3. Ce que je voulais dire par rapport aussi au Mondial l'année prochaine, c'est qu'on n'est pas qualifié encore au Mondial. Hein. Il y a une fenêtre de qualification, un tournoi de qualification au mois de février.
Ce serait un cataclysme.
Oui, mais enfin, on n'y est pas encore. Donc, faudra voir un peu le tirage. Bon, ça devrait passer parce qu'il y aura suffisamment de place, je pense, pour pouvoir passer. Mais bon, on n'y est pas encore.
La fédération française est inquiète de ce tirage parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va jouer.
Exactement.
Et ça peut devenir problématique.
J'aimerais pas jouer au Japon, moi, par exemple, vous voyez. Si vous vous souvenez un petit peu, mais bon, voilà. Donc, c'était intéressant de revoir un peu sur ce poste de meneuse, qui était le poste problématique, entre guillemets, même si on a eu d'excellentes choses de la part d'Alix Duché et de Marine Fautoux, notamment sur la fin du tournoi olympique, sur le match pour la médaille de bronze. Mais malgré tout, c'était l'occasion de revoir un petit peu ce poste-là. Bon, là, occasion perdue, même si l'adversité cette semaine avec l'Ukraine demain, enfin jeudi soir, et la Lituanie dimanche, à Villeneuve-d'Ascq dimanche, n'est pas insurmontable et que l'équipe de France, on peut l'espérer, passera ces deux obstacles sans trop de difficultés.
Le mot marge est peut-être un petit peu tout petit. Il faudra un petit peu de
marge. Il faudra faire attention quand même à l'Ukraine. Il y a une joueuse brillantissime qui s'appelle Alina Yagupova, qui est probablement l'une des toutes meilleures. C'est la Mike James au féminin en Europe. Donc,
qui joue à Fenerbahçe,
on va un peu se méfier parce qu'elle est capable de mettre 30 points un peu quand elle veut. Donc, on va voir effectivement aussi là. C'est intéressant défensivement de savoir si on a des joueuses pour stopper
la défense. Intéressant. Christophe, on va finir avec toi. En termes de projet de jeu, d'expression collective, est-ce que tu penses qu'à moyen et long terme, qu'est-ce qui peut changer avec le magistère Toupane en équipe de France? Ou alors poser la question différemment, qu'est-ce qui devrait changer, qu'est-ce qui doit changer? Tu as parlé du mental, c'était autre chose. Là, vraiment sur...
La dimension physique, de toute façon. Et puis, je pense que ça a été aussi dans les réflexions lors de la nomination de Jean-Aimé Toupane à la tête de cette équipe nationale. Jean-Aimé est reconnu comme un coach défensif. Alors, j'aime pas trop cette expression-là, parce qu'il n'y a pas un coach au monde qui ne se contente de faire que du demi-terrain en défense ou en attaque. Mais
par contre, il y a des coachs qui sont très offensifs et qui oublient de défendre. Ça, par contre, ça arrive.
Ouais, enfin, faut bien défendre. Enfin, faut être bon des deux côtés pour gagner un match. Mais Jean-Aimé a cette réputation, effectivement, d'avoir toujours eu des équipes très, très athlétiques, qui jouent un basket très intense aussi, et forcément très agressif défensivement. Donc, il faut s'attendre à avoir une équipe de France qui a une identité de jeu un peu portée là-dessus,
mais
avec beaucoup de relance derrière. Oui, c'était le cas parce que ça fait partie de notre ADN depuis très très longtemps. Mais je pense que là, surtout sur ces deux premiers matchs qui arrivent là cette semaine, il va vraiment vraiment mettre l'accent dessus, vraiment, parce qu'il n'a pas le temps. Encore une fois, l'attaque prend du temps, hein, surtout si on veut changer un peu cette identité de jeu offensive, il faut du temps. Et puis il faut que les joueuses elles apprennent à se connaître, etc., surtout avec les nouvelles venues. Et après, je pense que Jean-Aimé va aussi peut-être insister effectivement Sur les moments forts, on parlait de cette mentalité de gagne tout à l'heure. Pendant un match, vous avez des temps forts et il y a des moments qu'il ne faut pas louper. Et on dit très souvent qu'en Euroleague, par exemple, beaucoup de matchs se jouent sur une ou deux possessions. Effectivement, donc c'est apprendre à ces joueuses-là comment aborder ces possessions-là, comment commencer un match, finir un premier quart-temps et puis surtout finir un match. Quelles joueuses vont être responsabilisées à ces moments-là sur le terrain? Qui aura la responsabilité de la création? Qui va avoir la balle? Bon, bref, c'est toutes ces choses-là qu'il doit mettre en place. Mais il en a bien conscience d'ailleurs. Et je pense que s'il y a eu à un moment donné sur cette dernière compétition olympique un léger moment de flottement, c'est parce que certaines joueuses, effectivement, ne savaient pas ce qu'il fallait faire sur le terrain dans certains moments. Donc je pense qu'il aura à cœur de rectifier tout ça.
Et ben on va regarder ça. À propos, on va regarder ça. On regarde ça, ça où? Parce que c'est diffusé le match demain?
Tout à fait.
Pardon, ce jeudi?
Tout à fait. Sur Sport en France, je crois.
Oui. Eh ben c'est intéressant, regardez ça. Et dimanche aussi, pareil, sur Sport en France, le match contre la Lituanie. Merci à Maury d'avoir pris le temps. Merci Arnaud. Et pareil, merci Christophe d'être venu
décrypter. Antoine.
Et merci évidemment Antoine.
Oui, que
la personne la plus stable de cette émission-là, tout le temps,
stable,
même quand le présentateur change, puisque la prochaine fois, vous retrouverez Alessandro Pizzus. Allez, bonne fin de semaine et à bientôt. Ciao, ciao.